Chers amis, bienvenue à l'écoute de votre radio pour un nouveau passage de la vie de Saint François. Dans la nuit bleutée de lune, Léon cria. Comme le plus souvent, il ne reçut point de réponse. Mais cette fois, il eut un étrange pressentiment. Pourvu que François ne soit pas mort. Et après quelques hésitations, animé de la plus sainte intention, il s'avança sur la passerelle. La lune est claire, pas une feuille ne bouge. Il veut aller voir dans la cabane, mais là-bas, il aperçoit François agenouillé, le visage et les bras levés, et il entend une voix étouffée. « Qui êtes-vous, ô Dieu très aimé ? Et qui suis-je, moi, méprisable ver de terre et serviteur inutile ?» La lune éclairait en plein le visage extasié, où les joues étaient deux creux. D'émotion, Léon dut se cramponner à un arbre, et brusquement, une grande flamme vint planer sur la tête de François, et de cette flamme sortit une voix dont Léon ne comprit rien. Il trembla. Honteux de faire métier d'espion devant un événement aussi saint, et sans en détacher ses regards, il recula doucement. Mais il mit par mégarde le pied sur une branche. « Crac !» dit la branche. François se leva en sursaut. « Au nom de Jésus, qui êtes-vous » cria-t-il d'une voix aiguë. « Arrête, ne bouge pas !» François s'approcha. Léon se tordit de peur, les mains devant le visage. François était devant lui. « Qui êtes-vous ? » Alors Léon se leva timidement, demanda pardon en pleurant et expliqua son acte. François prit sa main qui tremblait. « Léon, je baignais dans une lumière d'oraison où je voyais l'abîme infini de la beauté divine en face de ma propre misère. Cette flamme, c'était Dieu. » François prit dans ses bras son agneau du bon Dieu. « Je ne sais, mais Dieu fera de moi sur cette montagne de grandes choses, comme il ne s'en est jamais passé. Va maintenant prendre à la chapelle le livre des évangiles. C'est là-dedans que Dieu me montrera ce que j'ai à faire. » Léon tenait le livre dans le clair de lune aiguë. À l'aveuglette, au hasard, il l'ouvrit. La passion de notre Seigneur. La deuxième fois, la passion de notre Seigneur. La troisième fois encore. Maintenant, je sais, dit François. Il devint blanc comme chaud et une sueur froide coulait sur sa face. Et les yeux fermés, il prononça, lui devenir semblable dans ses tourments et souffrances avant que vienne la mort. Dieu me soit propice. Et Léon s'en fut tout penaud, l'évangélière sous le bras. Ô mon Dieu Jésus-Christ, en cette fête de la Sainte Croix, je demande deux choses avant de mourir. Que durant ma courte vie, je puisse éprouver dans mon corps et dans mon âme vos souffrances et votre amour. Il était à genoux, hors de sa cabane. Sa prière tremblait dans le silence nocturne. Le matin était proche, le froid était mordant et clair d'étoiles. Sa prière n'était que désir en flamme. Et alors s'accomplit la grande attente de sa vie. Lorsque là-bas creva la première lueur du matin, quelle lumière tout à coup! On eût dit que le ciel faisait explosion et vidait sur la terre toute sa gloire en mille cascades de couleurs et d'étoiles. Et au milieu de ce tourbillon de clarté brûlait un noyau de lumière aveuglante qui, du fond des abîmes célestes, se précipiter avec une effrayante rapidité pour s'arrêter soudain, immobile et sacré, sur une pointe de rocher. C'était une forme ailée de feu clouée sur une croix de feu. Deux ailes étincelantes se dressaient, deux s'éployaient horizontales et deux autres couvraient le corps. Et les plaies des mains, du côté, des pieds, étaient de sang brûlant et rayonnant. La face éblouissante de cet être était surnaturelle de beauté et de douleur. C'était la face de Jésus. Et Jésus parla. Et soudain, des éclairs de feu et de sang fulgurèrent des cinq plaies, percèrent de clous les mains et les pieds de François et d'un coup de lance son cœur. Un cri véhément de douleur et de joie déchira l'air et l'image ardente s'imprima comme dans un miroir avec tout son amour, toute sa beauté, toute sa souffrance dans le corps de François. Elle disparut en lui. Un nouveau cri fendit le ciel et le corps déchiré de clous et de blessures, l'âme et l'esprit traversés de flammes, François s'affaissa, évanoui dans son sang. Vivez en paix, mes petits frères, et adieu, mon corps s'en va, mon cœur demeure ici. Adieu tous, et toi aussi, belle montagne, bonne et sainte montagne des anges, adieu. Adieu, arbres, plantes, rochers, oiseaux, toi en particulier, frère faucon, compagnon qui me réveillait de ton cri, adieu. Adieu, pierre devant laquelle j'ai prié, adieu, petite chapelle. C'est à vous, ô Mère de Dieu, que je recommande les frères et la montagne. Je ne vous reverrai jamais plus. Il était assis sur le petit âne. Ses mains et ses pieds enveloppés de bandages, d'où suintait le sang des plaies vives. Ah, ces plaies! Quelle joie céleste et candide elles lui causaient, et ensemble quelle douleur inhumaine! Il bénit les frères et Léon fit avancer l'âne. Mais au lieu de descendre, ils montèrent plus haut encore de sommet en sommet. C'est comme si François ne pouvait plus s'arracher aux saintes altitudes. Et les frères qui devaient rester se sentaient comme aimantés et le suivaient à la distance d'un coup d'arbalète. Ayant enfin gagné la vallée vers le soir, François voulut, malgré toute sa souffrance, descendre de l'âne. Cela doit se faire avec précaution quand on a dans les mains et les pieds des clous aux pointes recourbées. Il tomba à genoux, le visage levé vers le mont, et cria « Sois béni, montagne sainte, où Dieu se montra, sois béni !» Avant qu'il se fût éloigné d'une lieue, l'impétueux frère Agneau avait déjà raconté dans le hameau proche le miracle des plaies. Et de là, la nouvelle bondit comme un feu sur la route. Le voyage fut un triomphe inouï, une marche triomphale de prodiges et de miracles. Les cloches sonnaient, le peuple se pressait, se battait pour toucher le vêtement du saint. Le saint, des mères lui tendaient leurs enfants. La foule arriva de loin, à pied, en chariot. Des malades et des infirmes formaient la haie, le long des chemins, comme si tous les hôpitaux des environs s'étaient vidés. Mais François ne le voyait point. Il vivait l'esprit encore tourné en dedans, dans cette céleste extase de joie et de douleur. Ils avaient depuis 2 heures dépassé le jubilant Saint-Sépulcre quand il demanda « Serons-nous bientôt à Saint-Sépulcre ?» Il vivait en dedans, mais chaque pas creusait une douleur dans son corps. L'excès des souffrances le força à demeurer tout un mois dans un petit village montagnard. Plus tard, la neige les retint pendant plusieurs jours et c'est seulement vers la mi-novembre que, entourés de toute assise, ils arrivèrent à Notre-Dame-des-Anges. François n'avait plus que la peau sur les os, mais de ses yeux profonds, cernés de noir, sortait un doux reflet de bonté et d'amour qui vous faisait pleurer et tomber à genoux. Le père et la mère vinrent visiter leur fils sur son lit de feuilles sèches. Le soir, les frères étaient assis autour du feu avec François, Élie et Léon à ses côtés. Et Léon conta le miracle. À la lueur de la flamme, on voyait couler des larmes. François cachait ses blessures, mais à ses pieds s'élargissait une petite mare de sang. Élie écouta avec fierté le récit de Léon et ses grands yeux contemplaient l'avenir. Car ce miracle ferait du bien à l'ordre qui conquérait plus aisément le monde. Il ne voyait de l'ordre, hélas, que l'éclat et le renom extérieur. Frère Bernard aussi était là, et beaucoup de compagnons des premiers jours, qui avaient quitté leur grotte ou leur petit couvent dès qu'ils avaient appris la nouvelle. Ils avaient l'âme baignée de délices. Lorsque Léon eut terminé son récit, et tandis que les frères demeuraient là, immobiles, les mains jointes, comme ravi de la beauté du ciel, Élie, qui tenait François dans ses bras, dit « Et maintenant, il te faut du repos, frère François, tout l'hiver. » François se sentit mordu comme d'un dard. « Non, cria-t-il en étendant les mains au bandage sanglant, non, point de repos, c'est maintenant que le travail commence. Rien n'est encore fait, le grand ouvrage doit commencer maintenant. Je veux aller prêcher, soigner les lépreux, être méprisé par le monde. » Frère Geniève, qui ne pouvait souffrir Élie, le regardait avec un sourire vainqueur, l'air de dire « Voilà un autre homme que vous !» Et Élie, comme s'il eût compris, haussa les épaules avec dédain. L'hiver était rude, et rude la besogne de François. Assis sur un petit âne, accompagné de Léon et parfois d'Élie, il voyageait de village en village pour prêcher, parfois dans trois villages en un jour, par tout temps. Les pointes des clous lui sortant de la plante des pieds l'empêchaient de marcher. Toujours le feu et la souffrance, mais au travers, l'amour de Jésus, auquel il voulait faire participer tout le monde. Il visitait Claire et les sœurs. Il lui arrivait encore de chanter et de rire à se tordre des frasques de frère Genièvre. Ne voilà-t-il pas que ce bon frère était allé à Rome? J'imagine qu'on était averti de sa visite. Le renom de sa simplicité s'étendait loin. Une grande foule vint à sa rencontre. Voyant cela, il voulut fuir, mais déjà on l'entourait. Tout à coup, il aperçut des enfants qui jouaient à la balançoire sur une planche jetée en travers d'un arbre abattu, et lui de courir à eux. « Puis-je jouer avec vous, mes enfants ?» demanda-t-il. On le lui permit. Il s'assit d'un côté à califourchon sur la planche, de l'autre côté se tassèrent sept gosses au moins pour rétablir l'équilibre et eux tous de se balancer. Hop en haut, hip en bas, ils riaient et criaient. Le peuple en fut formalisé. « Est-ce là ce saint frère, Genièvre, le meilleur ami de François ?»« C'est un fou, monsieur, ce n'est pas sérieux. Regardez-le, moi, se balancer. » J'en suis gêné pour lui, je m'en vais. Moi aussi, moi aussi. Et quand la foule se fut retirée, Genièvre se remit en route. Voilà le bon système, approuva François en riant. Le zèle de François croissait chaque jour, mais ce sang qui s'égouttait n'était point fait pour le fortifier. Après l'hiver, le revoilà étendu dans sa cabane. Un ulcère à l'estomac, des ulcères partout. Il y a longtemps que je devrais être mort, dit-il. Un jour que j'étais avec lui dans la montagne, Élie a rêvé qu'un prêtre vêtu de blanc venait lui prédire que je n'avais plus que 2 ans à vivre. J'ai longtemps pensé qu'il a pris 2 pour 1. Il aura quand même bien compris. Dommage. Sinon, je serais déjà là-haut. S'il faut en croire les gens, Élie serait un alchimiste. Il sait faire de l'or, il a appris cela des Arabes. On dit même qu'il est sorcier. Vous penserez de lui ce que vous voudrez, mais il est certain qu'il aime François et qu'il veut le guérir. Ce souci lui enlève tout repos. Il écrit au cardinal qui passe l'été avec le pape Ariette. Le cardinal a d'excellents médecins. Élie veut que François aille les trouver, mais celui-ci répond. « Quand Dieu m'envoie les souffrances que je lui ai demandées, ce serait impoli de les vouloir ôter. » Mais après une nuit plus douloureuse, il voit apparaître à son chevet Élie, qui lui dit d'une voix de trompette « Comme supérieur, je vous ordonne au nom de la sainte obéissance de vous laisser transporter à Ariette. » François Jean. Au nom de la sainte obéissance, j'irai à Ariette. » Dès le lendemain matin, il se met en route avec Léon et quelques autres. Un âne solide le porte. Mais à chaque pas, François doit retenir un cri de douleur. On avance qu'au pas, prudemment, avec tous les 10 pas, une halte. L'après-midi seulement, ils arrivèrent à Saint-Damien, à moins d'une lieue de là. « Ici, nous nous reposerons un peu, dit François, et nous irons saluer l'ange Claire, car Dieu sait si je la reverrai encore dans cette vie. » Un mois après, il y était encore. Étendu, aveugle, dans une hutte de roseaux, au fond du petit potager derrière l'église. Cette hutte, Claire l'avait construite elle-même. Il y avait là beaucoup de fleurs et 3 beaux cyprès. On y jouissait d'une vue ravissante sur la vallée fertile, et il y faisait frais, jeune et tranquille comme un dimanche perpétuel. Sauf, hélas, la nuit. C'était alors un sabbat de tous les diables. Rats et souris lui couraient sur le corps en pépillant, geignant, venaient flairer ses plaies, gratter au roseau ou tomber des poutres du toit sur sa figure ou sa poitrine. Ajoutez à cela des nuées de moustiques, de papillons de nuit, de temps et un été lourd d'orage qui ne crevait pas. Néanmoins, il refusait qu'on veillât la nuit à son chevet. Ainsi donc, il est couché, torturé et aveugle, dans ce cher couvent de Saint-Damien, où commença sa vie spirituelle. Pendant le jour, les frères viennent très souvent prier près de lui, mais il préfère être seul, ou mieux encore avec Claire. La sainte Claire pense et adoucit ses ulcères, ses douleurs et son cœur assombri. « Claire, ma sœur, murmure-t-il quelquefois, quand elle lui soigne les yeux ou les plaies des pieds et des mains. » Léon seul soignait la plaie du cœur. Lui seul l'avait vue. Et comme il en parlait de ces saintes roses de sang. Claire était devenue d'une pâleur brillante, un peu comme le sommet d'un cierge allumé. On eût dit que derrière son front luisait une lumière. Elle était maigre, mais sans une ride, et ses yeux bleus étaient pleins d'attente, comme si d'un moment à l'autre, le ciel allait s'ouvrir. François la révère plus que jamais. Lui, il se sent encore homme, au point qu'il regarde ses souffrances comme un remède contre la tentation. Elle, si pure, elle n'a plus même besoin de douleurs corporelles. Elle est venue sur la terre comme une étoile du matin, riche et brillante, droit du ciel. Et Dieu brille à travers elle. Quand François la salue, c'est Dieu qu'en elle il salue. Quand elle est présente et prie avec lui, tout devient doux et la souffrance supportable. Mais quand il est seul, les ténèbres l'environnent et le vieux chagrin au sujet de l'ordre se remet à saigner. Surtout la nuit, à cause de ses rats et souris qui l'empêchent de jamais sommeiller un peu. « Mes petits frères, les rats, suppliait-il parfois, mes petites sœurs, les souris, allez-vous-en, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Vous rendez ma vie triste et quand je suis triste, mes frères le deviennent aussi. » Et nous devrions être gais et prendre tout du bon côté. Allez, mes enfants, allez donc jouer ailleurs. Mais pam, pam, alors il en tombait par douzaines sur son corps et des bandes de centaines de rats glissaient sur ses jambes comme un seul grand et souple animal. C'est le diable qui les envoie pour avoir raison de moi. Mais je ne lui céderai pas. Pas pour une fortune. Et alors, se redressant sur son séant, il se mettait à prier jusqu'à l'heure où les moniales sonnaient la petite cloche. Il restait patient, défendait fermement son amour de Dieu, minute après minute. Grâce aux soins de Claire, Une mince fente s'ouvrit enfin dans ses yeux tuméfiés. Et la main devant les yeux, il voyait un peu de la lumière de l'été, l'ombre de Claire et des frères, et quelque chose de la couleur des fleurs. Mais il voyait aussi maintenant les rats et les souris, et cela était assez affreux pour souhaiter d'être à nouveau aveugle. C'était trop pour un seul homme. Et une nuit que les plaies, la maladie, les rongeurs l'accablaient à la fois, il cria « Seigneur, ayez pitié de votre pauvre petit mendiant. Mon Dieu, je vous en supplie, je n'en peux plus. Je ne demande pas que vous diminuiez mes douleurs. Oh non, augmentez-les plutôt, je le mérite. Mais donnez-moi seulement un peu de patience pour les supporter. » Ces paroles n'étaient pas encore refroidies, que souffla comme un son d'orgue, qui devenait une voix humaine, et lui disait que par ses souffrances il obtiendrait le ciel, qu'il devait trouver sa joie en elle, et même les célébrer en chantant. « S'il en est ainsi, qu'elle vienne par les géants » cria-t-il, et ce cri chassa un brouillard de son âme. La lumière de son cœur versa de la lumière sur ses souffrances, et quand parut le matin, il participa au matin lui-même, comme une fleur pleine de rosée et blanche et étincelante. Et il vit les fleurs, les brumes sur la plaine, les arbres et la belle richesse de l'aurore et le grand soleil rond. Il tendit les mains vers la lumière, se traîna jusqu'au seuil et cria « Frère, frère !» Et ils accoururent comme jaillis de leur cabane. Claire vint presque aussitôt et leur cria à tous de ne plus s'affliger à cause de lui. « Car cette nuit, le ciel m'a été promis. Chantons, exultons, admirons l'œuvre du Créateur. Tout est issu d'un unique amour. Nous sommes les frères de toutes les créatures, de l'air et du feu et de l'eau. Ils sont nos frères et nos sœurs. À la louange de Dieu, pour la consolation des hommes, je veux chanter ces frères et ces sœurs dont nous nous servons tous les jours et sans qui nous ne pouvons subsister et dont, hélas, on abuse cependant pour faire injure à Dieu. » Transporté, il se leva, appuyé sur Claire et Léon, il alla jusqu'au seuil et sur la jolie mélodie d'un chant de sa jeunesse, il chanta avec le geste de s'accompagner de la harpe « Seigneur très haut, très puissant et bon, à toi toute gloire, toute louange, tout honneur et toute bénédiction. Toi seul, Seigneur, mérite nos louanges. Nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour toutes les choses que tu créas. Il faut en particulier que te loue notre frère Messire le Soleil à la tête splendide, qui nous donne le jour et dont tu nous éclaires. Il est clair et beau et rayonnant de visage. De toi, Seigneur, il est le signe et le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur la lune et les étoiles que tu allumas là-haut où elles brillent, lumineuses, pures et belles. Loué sois-tu, mon Maître, par notre frère le vent, par l'air et les nuages et tout temps maussade ou beau, où chaque créature trouve subsistance et vie. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre noble sœur l'eau, qui est si serviable, humble, fraîche et chaste de nature. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre frère le feu, par qui la nuit tu nous donnes une clarté protectrice. Il est clair et joyeux, fort et brave à l'extrême. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur la terre maternelle, qui nous nourrit et rassasie, nous porte, nous garde et nous protège, nous donne en abondance fleurs et fruits, herbes et verdures. Oh, louez et chantez le Seigneur en grande reconnaissance et le servez toujours en très profonde humilité. Un long moment de silence où l'on écoutait encore dans l'âme l'écho de ce chant. Frère Léon soupira et dit, les yeux mouillés, « Vous en avez embelli notre vie !» François regarda, heureux, les frères qui approuvaient tous dans la joie et l'admiration. Alors il se tourna vers Claire et lui dit, « Ce chant, je veux le réciter chaque jour avec mes prières. Je vous le dois. Vous avez arraché en priant la douleur de mon cœur. » Il prit la petite main de Claire dans ses mains entourées de linge, la regarda au fond des yeux et dit, comme parlant au ciel, « Merci, oh merci !» Et il cria gaiement aux frères, « Avec ce chant, nous devons parcourir le monde comme des oiseaux. Frère Pacifique, roi des poètes, m'accompagnera de nouveau. Qu'on me l'amène aujourd'hui même. Frère, d'abord vous prêcherez un peu, puis vous direz ce chant. Le chant attendrit et illumine l'âme. Et vous direz au peuple, « Nous sommes les jongleurs de Dieu et nous ne demandons d'autre salaire que ceci. Faire de pénitence et apprenez à vivre la joie pure. Venez, répétons ce cantique jusqu'à ce que nous le sachions par cœur. » Il entonna le premier verset. Claire et les frères le reprirent après lui. À la fin, toutes les religieuses étaient là, chantant en chœur le cantique d'admiration et de reconnaissance pour la vie. Les ténèbres étaient oubliées. Élie, Bologne, Paris, oubliées. Voici à nouveau les heures de poésie, les chevaliers de la table ronde, les mendiants chantant, les évangéliques alouettes de Dame Pauvreté et de Notre Seigneur. L'été fini, il revint à pied à Rieti. Mais il portait des sandales que Claire lui avait tressées de cordes et de laine, avec au milieu une petite ouverture où la pointe recourbée du clou avait libre jeu sans toucher le sol. Pas à pas, comme derrière une procession, on avança en chantant le cantique du soleil. En chemin, le peuple vint des montagnes et d'au-delà des montagnes pour le voir, le toucher, baiser la terre où il avait mis les pieds. Après quelques jours, il vit dans le lointain les rochers où s'accrochaient les ermitages de Gretsch, Font et Colombes et autres. Et, là-bas, au bout d'une longue vallée, la petite ville de Rieti était assise comme l'attendant, avec derrière, pareil à un arc de triomphe, les sommets neigeux des monts Sabins rougis de couchant. La ville se vida à sa rencontre, avec drapeaux et bannières, et le chant des cloches ne quittait pas l'air. Mais François, à bout, désirait se reposer. « Vite, dit-il, là, à côté de l'église, demandons l'hospitalité au presbytère. » Ah, qu'il était heureux, ce curé! Mais à peine François fut-il assis, que la foule monta comme une marée vers la maisonnette, et en un tournement, voilà le beau vignoble du curé ravagé, et le curé de Gindre. Ah, quel malheur! Il me donnait 10 tonnelées de vin, et mes malades qui aimaient tant ce vin, et mon oncle qui en raffolait. Soyez tranquille, consola François. Je me porte garant que votre vignoble vous rapportera 20 tonnelées. Le curé le regarda. François, en effet, savait faire des miracles. Si vous le dites, répondit le curé ravi, il en sera ainsi. Et la foule n'eût voulu pas partir avant que François fût venu se montrer et la bénir. Quelques jours après, il fit son entrée à Rieti, escorté de bannières, drapeaux, fanfares, cierges et chants. Le cardinal Ugolin et tous les prélats de la cour vinrent à sa rencontre en grand apparat. Ils le conduisirent au palais où l'attendait le pape. Il n'y avait rien à faire. Il ne voulut être hébergé nulle part ailleurs que dans la modeste maison d'un sarrasin converti. Il occupait là une chambre toute exiguë. Les médecins fameux vinrent avec leurs onguents en plâtre, potion, mais rien ne le soulagea. Rien, il n'en devint que plus malade. Peut-être la musique le retaperait un peu. Il fit appeler Pacifique. « Oh, toi, mon frère, roi des poètes, va emprunter une mandoline et chante-moi quelque chose de Notre Seigneur pour consoler mon frère corps qui souffre tant. Très volontiers, héros de Dieu, mais que penseront de moi les voisins? Moi qui chante tandis que vous êtes si malade ?» « Tu as peut-être raison, soupira François, mais j'aurais été si heureux d'ouïr un peu de musique, ne fût-ce qu'un petit refrain. » La nuit, il s'éveilla. « Qu'est-ce que j'entends ? » se demanda-t-il. Dans sa chambrette résonnait un beau cœur comme de 1000 anges. Il connaissait ses voix. Cela descendait du ciel comme une nuée, flottant et planant, mêlé à un égouttement cristallin de harpe et de sitar. Mais tout cela, si ténu, si fin, si doux, si lointain et si proche à la fois, qu'on eût dit des parfums de fleurs qui chantaient. Et François sanglotait, bercé dans son bonheur, inondé de la beauté de Dieu transposée en musique. À la naissance du matin, le concert s'évanouit, absorbé par la lumière. Les visiteurs, pauvres et riches, affluaient. Le curé vint lui dire que son vignoble avait donné plus de 25 tonnelées de vin. Hugolin lui-même vint le voir et lui demander s'il voulait envoyer son manteau à la très noble et sainte comtesse Élisabeth de Hongrie. « Volontiers, » dit François en souriant. « Ainsi le monde s'embellira quand les comtes et les princes revêtiront le manteau de la pauvreté. » Il demeura là, couché dans sa misère, soigné par Léon qui, chaque matin, venait détacher doucement, en les mouillant d'eau tiède, les pansements collés dans les plaies, les renouveler et laver les pauvres yeux. Ah, ces pauvres yeux ! Je saurai les guérir, prononça le médecin, un long maigre à la large bouche et à nez pointu. Si vous ne pleuriez pas tant, ce sont les larmes qui, par leur sel, excitent l'inflammation. Nous devons isoler les glandes lacrymales. Oui, monsieur le docteur, dit Léon, il pleure beaucoup, de douleur et de joie. « Et je veux pleurer toujours, » cria François. « Les larmes sont le sang de l'âme, comme dit saint Augustin, les perles de l'âme. Je n'ai que cela à offrir au bon Dieu. N'obstruez pas ce fleuve béni qui sort de l'âme et donne à frère corps bénédiction et noblesse. Que m'importe la lumière que les mouches voient aussi, si j'en obscurcis mon âme ?» Naturellement, les docteurs ne touchaient point au saint plaid de la croix et on n'en parla point. Mais pour le reste, ils tripotaient et oignait le malade à n'en pas finir. Le docteur se gratta l'oreille et dit « Nos remèdes ne peuvent rien si vous ne nous secondez pas. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous fatiguer de scrupules. Jour de jeûne ou non, vous devez manger beaucoup et de fins morceaux. Il faut vous vêtir plus chaudement, malgré votre vœu de ne porter rien qu'une bure. Vous devez nous obéir. » « C'est vrai, père François, intervint Léon, vous êtes ingrat envers frère Cor qui vous a toujours bien servi. Vous ne lui rendez pas ce que vous lui devez. Ce n'est pas honnête. » François fut frappé de cette remarque. « Oui, c'est vrai, dit-il en grelottant. Frère Anne m'a toujours bien servi. » Et soudain, se parlant à lui-même, « Frère Anne, écoute, je te demande pardon de tout ce que je t'ai fait souffrir. Mais sois content. Désormais, je serai ton valet et satisferai tes désirs. » Mais frère Anne n'en avait plus de désir. C'est comme si on disait à un prisonnier qui n'a pu parler depuis 40 ans, « Parle maintenant tant que tu voudras. » Le prisonnier n'a plus rien à dire. Il a oublié toutes les paroles et d'ailleurs sa langue s'est raidie en sa bouche. Maintenant, on avait doublé sa bure d'une toison de brebis. « Mais il faut aussi en coudre une dessus, dit-il, sinon on ne saura pas que je suis habillé chaudement et je veux paraître ce que je suis. » On lui servait de la bonne nourriture, de fins morceaux, riz de veau, truite, confiture, mais il ne faisait qu'y toucher. On lui avait donné aussi un oreiller de plumes. Mais cela, non, jamais, frère Cor n'avait pu dormir de toute la nuit. C'est comme s'il eût été enfermé dans une cheminée fumante. Ôtez-moi cet oreiller. Le diable est caché dedans. Rendez-moi bien vite mon bon petit bloc de bois. » Nuit et jour s'étirait en lui la nostalgie des grottes et des ermitages solitaires. Là-bas, il guérirait. L'air y est subtil et pur. Que ne fait-on pas pour satisfaire un malade ? On le porta donc dans la grotte de Fontécolombe, où il avait par deux fois écrit la règle. Mais ce long médecin le suivait avec ses aides et tout un arsenal, un réchaud, des pinces, des fers, des boîtes de drogue. Pour guérir vos yeux, nous devons attirer la douleur à un autre endroit du corps. Nous devons passer un fer chaud sur votre front. C'est un remède énergique. Vous pouvez en mourir. Je me soumets à Élie et au cardinal pour tout ce qui concerne mon corps. Je n'en veux plus disposer. Et si cette brûlure est bonne à frère corps, allez-y, dit François avec calme. Il attendait, regardant tantôt la vallée, où les arbres, les maisons, tout était si petit. Tantôt un aide qui attisait le feu. Le docteur réfléchissait à la manière de s'y prendre. Les frères étaient nerveux. Ces préparatifs du martyr duraient trop longtemps, les martyrisaient eux-mêmes. Ils se promenaient de long en large, la bouche sèche. Enfin, le docteur prit une barre de fer à bout plat et la posa sur les braises ardentes, la retira de temps en temps pour voir si elle n'était pas encore chauffée à blanc. François sourit à son frère le feu, dont la force indomptable ne manquait pourtant pas de l'effrayer un peu. « Frère feu, dit-il, toi qui es la plus utile des créatures, sois bon envers moi, qui t'ai toujours aimé beaucoup. Chaque soir, en éteignant la lampe, c'est à contre-cœur que je soufflais ta flamme. Je t'ai respecté toujours pour l'amour de celui qui nous a l'un et l'autre créés. Sois bon à ton tour. Viens, frère feu. » Le docteur retira des braises le fer chauffé à blanc, l'approcha vite de François qui tendait le front. Le feu toucha la chair, un grésillement, une odeur nauséeuse, un peu de vapeur, et les frères s'enfuirent d'effroi et d'horreur. Le front et les tempes du malade n'étaient qu'une plaie affreuse, de la chair nue avec autour des cloques blanches. Espérons que cela aura de l'effet, dit le docteur, qui dut se détourner lui-même d'horreur. Un à un, les frères revinrent, hésitants. Mais quand ils entendirent François dire « Si le rôti n'est pas encore à point, remettez-le à la broche. Cela ne me fait pas mal. » Ils s'enfuirent de nouveau. Le martyr n'était pas fini. Quelques jours après, on lui perça les oreilles de pointes brûlantes. Plus tard, on lui ouvrit les veines des tempes et on y mit des sangsues. Puis on essaya des onguents, des pâtes et des emplâtres. On lui donna à boire des drogues dont l'amertume faisait dresser les cheveux. Il laissait faire et fredonnait un bout de chanson. Il connut à nouveau un zèle d'abeille, comme au début de sa vocation, le désir de soigner les lépreux, de prêcher, de convertir les morts. Hélas, son corps n'était plus qu'une loque. Sur un âne, il alla visiter les ermitages et prêcher un peu aux gens de la campagne. À peine était-il occupé depuis 10 minutes que l'église était pleine à éclater. « Vous me croyez un saint, dit-il, et pendant tout l'avant, je n'ai pas jeûné un seul jour, mais mangé toutes sortes de bons morceaux. » Il ne pouvait souffrir qu'on eût de lui bonne opinion, mais les sermons l'exténuaient. Sous ses pieds, le parquet s'humectait du sang qui dégouttait sans cesse, et après un quart d'heure, il s'affalait. Il voyageait ainsi avec Léon d'ermitage en ermitage et lui dictait de belles lettres pour Élie, les ministres, la comtesse Élisabeth et tous les chrétiens. Il chantait beaucoup de cantiques en l'honneur du très saint sacrement, de la Sainte Vierge. Léon devait les annoter, paroles et musique, et les envoyer à Sœur Claire qui en était si heureuse. Ainsi, ils passèrent l'hiver tant bien que mal. Et le beau temps revenu, le cardinal fit dire à François de se rendre à Sienne, où l'air printanier est un baume et où demeurait un oculiste très célèbre. « Nous y allons, dit François. » Le médecin au nez pointu se mit à pleurer. « Pourquoi pleurez-vous, monsieur le docteur ?»« Voilà, sanglota-t-il, je ne suis pas marié. Vos actes et votre vie m'ont tellement édifié que je voudrais entrer dans votre ordre. Loué soit Dieu qui vous fait préférer le baume de la prière à celui de vos petits pots. Venez, frère docteur. » et par les contrées printanières, il s'enfuit à Sienne. François, sur son âne, entonnait une chanson. À l'étape, il écrivit à sœur Claire ce billet. « Moi, frère François, je veux imiter la vie et la pauvreté de très haut Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte Mère, et veux y persévérer jusqu'à la fin. Je vous supplie, très chère sœur, de demeurer toujours ferme dans ce saint genre de vie et dans cette pauvreté, et prenez garde de jamais y renoncer, en quelque façon, sur le conseil d'autrui. » Ce billet était pour Claire comme un rempart. Elle le garderait, répondit-elle, comme les tables de la loi dans l'Arche d'Alliance. Le chemin serpentait solitaire par la plaine. Là-bas, on vit arriver trois femmes, trois pauvresses, trois sœurs jumelles, on eût dit, tant elles se ressemblaient par les traits et les guenilles. Elles se rangèrent au bord du chemin. Les frères les regardèrent un peu de travers. François allait les saluer, mais elles le préfèrent, et toutes trois ensemble, s'inclinant avec grand respect, elles dirent « Sois le bienvenu, Seigneur Pauvreté !» François en fut si frappé qu'il dit au frère docteur « Tu as encore de l'argent ? Va leur donner une aumône, car elles sont plus pauvres que nous, et cela n'est pas permis. » Frère docteur obéit. Puis les frères, tournant encore une fois la tête, ne virent plus les femmes. Étonnés, ils se dirent « C'était des anges !» Dame Pauvreté a envoyé saluer son époux, sourit François, ravi. Au revoir, chers amis, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.